réplique, Israël-Palestine, 50 ans après la guerre des six jours, avec Jean-Paul Chagnolot et David Chemla. Il y a maintenant un demi-siècle, après la fermeture par Nasser du golfe d'Aqaba, éclatait la guerre des six jours. Cette guerre, contre la grande coalition de l'Égypte, de la Syrie, de l'Irak et de la Jordanie, Israël l'a gagnée. Certains alors ont parlé de miracle. Ils avaient peut-être raison. Mais l'euphorie, aujourd'hui, n'est plus de mise. Car les 50 années qui se sont écoulées sont 50 années d'occupation de la Cisjordanie. Israël a fait la paix avec l'Égypte et avec la Jordanie, mais la question palestinienne n'est toujours pas réglée. Le statu quo peut-il tenir? Quelles sont les conséquences politiques et morales sur la société israélienne de la situation qui perdure? La paix est-elle encore envisageable ou est-il déjà trop tard? C'est ce que je demanderai à mes deux invités, David Chemla, qui est à l'initiative en 2010 de l'appel de J. Cole à la raison, et par raison il entendait l'application du principe deux peuples, deux États, et avec Jean-Paul Chagnolot, professeur émérite de sciences politiques, qui publie « Israël, Palestine, la défaite du vainqueur ». Commençons par ce titre paradoxal. Que voulez-vous dire, Jean-Paul Chagnolot, par « défaite du vainqueur » ?
Je crois, comme vous venez de le rappeler, que Israël a gagné la guerre de 1967, a gagné la guerre de 1973, et a ensuite été entraîné dans des conflits d'une autre nature, des conflits que l'on pourrait qualifier de conflits asymétriques. Et il y a eu une évolution, une accélération du rapport de domination que vous évoquiez à l'instant et qu'aujourd'hui, il se traduit notamment par une volonté d'aller beaucoup plus loin que les frontières de 67 et que je crois que la colonisation est au cœur de tout cela. Et donc il y a une espèce d'ivresse de la puissance qui empêche finalement de penser l'avenir. Et je crois qu'il est tout à fait fondamental à mes yeux en tout cas qu'Israël puisse s'intégrer pleinement dans le Moyen-Orient. Et c'est pas simplement par rapport au Moyen-Orient, ce qui serait quelque chose de fondamental, mais ça serait une valeur, je crois, globale pour les relations internationales, pour le rapport à l'Europe ou aux États-Unis notamment. Enfin, je crois qu'il y a là un enjeu tout à fait essentiel. Et donc, au lieu de penser l'avenir par une réflexion sur des compromis politiques, eh bien, on s'efforce, surtout depuis une quinzaine d'années, depuis disons, l'intifada des années 2000, les gouvernements successifs israéliens sont dans cet engrenage, avec ce que vous avez évoqué aussi, une droitisation de la société israélienne, ou en tout cas de la classe politique israélienne. Et on oublie les référents fondamentaux qui sont des référents du droit international. Et le droit international nous donne les éléments d'une solution à deux États. Et je crois que la vraie victoire n'est pas celle de la force, mais c'est la victoire du droit international fondée sur des compromis qui seraient en l'occurrence un compromis
historique. Oui, mais pourquoi le mot défaite? Vous utilisez, nous y reviendrons, les termes d'ivresse de puissance pour qualifier le comportement d'Israël, l'état d'esprit, la disposition d'âme qui y règne. Mais ivresse de puissance, ce n'est pas la défaite. Ce serait peut-être une trop grande confiance dans le fait d'être victorieux. Le mot défaite dit autre chose. Que dit-il?
Le mot défaite signifie... Moi, je crois que j'évoque à la fin de mon petit bouquin, j'évoque l'idée de défaite différée. C'est-à-dire que je pense qu'une victoire qui ne repose que sur la force n'a pas la légitimité nécessaire pour s'inscrire longuement dans l'histoire. Et je pense que nous avons affaire à des conflits de longue durée et par conséquent à penser la longue durée. Dès lors qu'on se contente de victoires fondées sur la force, eh bien d'une certaine manière c'est une défaite. C'est une défaite parce qu'on ne va pas réussir à établir les compromis nécessaires. Et c'est pour ça que je parle de défaite différée. Une défaite c'est finalement l'échec d'un projet, l'échec du projet. Et si on prenait les choses fondamentalement, d'une certaine manière, c'est l'échec d'une certaine conception, je dis bien d'une certaine conception du sionisme. Dans mon livre, j'évoque le philosophe Leibovitz que j'avais rencontré il y a bien longtemps et pour lequel j'avais un immense respect. J'ai encore en souvenir cette rencontre. Et il avait cette formule, il disait « Je suis sioniste jusqu'aux frontières de 67 ». Et tout a commencé le septième jour après la guerre de 67, qui était une guerre de conquête. Et je crois que c'est là, c'est en ce sens qu'on peut parler d'une défaite différée. C'est-à-dire qu'on va vers un échec, on va vers une catastrophe annoncée. Et c'est cela que, très naïvement, j'essaie de proclamer pour dire n'allons pas dans cette direction et revenons à des fondamentaux qui sont, on les connaît, les fondamentaux du droit international.
David Chimla.
Pour comprendre la situation actuelle, je crois qu'il faut aussi revenir sur les 50 ans qui se sont écoulés, parce que 50 ans ont profondément changé la région et aussi la société israélienne. Mais avant ces 50 ans, il y a la guerre elle-même. On a souvent analysé les conséquences de cette guerre. À partir des conséquences de cette guerre, on a essayé d'analyser le processus qui l'a conduit. Et je crois qu'il est important de rappeler, vous rappeliez Jean-Paul, la citation de professeur Leibovitch qui disait que les 6 premiers jours fut une guerre de défensive et que le 7e jour a été une guerre de conquête. Je crois que c'est tout à fait vrai, c'est-à-dire que Israël s'est trouvé contraint à lancer cette opération le 5 juin 67, compte tenu de la situation dans laquelle elle se trouvait, mais ne s'était pas préparé à faire une guerre de conquête de territoire. Et pour cela, je veux juste donner 2 faits précis qui sont, me semblent très importants. D'une part, je me base sur ce que tout le monde connaît, l'appel qui avait été fait alors que la guerre avait été démarrée au roi Hussein de Jordanie, lui demandant de ne pas intervenir dans le conflit. Si le roi Hussein n'était pas intervenu, on n'en serait probablement pas là aujourd'hui, parce qu'il n'aurait pas bombardé Jérusalem, on ne serait peut-être pas dans la situation dans laquelle nous nous trouvons. Et l'autre fait qui est moins connu, je le trouve dans les mémoires du général Herzog, qui était à l'époque, avait été nommé après la guerre de 56. Rappelez-vous, Israël avait occupé le Sinaï et la bande de Gaza. Cette occupation a duré un certain nombre de mois. Et une unité avait été mise en place pour gérer les populations civiles en cas d'occupation militaire. Cette occupation en 56 avait été stoppée au bout de 6 mois. Cette unité de réserve existait et Herzog en était le responsable. Or, cette unité n'avait pas été mobilisée la veille du 5 juin. Elle n'a été mobilisée que le 5 juin. Et Herzog rapporte dans ses souvenirs que le 5 juin, il a été ouvrir les bureaux pour essayer de préparer, parce qu'il s'avérait qu'on allait se trouver obligé de gérer nos populations civiles, et rien n'était prêt, il n'y avait pas de matériel, il n'y avait aucune directive qui était prête. Ce qui montre la préparation d'une occupation, certes préparation militaire d'une guerre, mais pas d'une préparation d'une occupation. Je crois que c'est un point important. Et pour moi, cette guerre est une guerre accidentelle, et nous nous trouvons aujourd'hui dans une situation dont nous payons encore le prix 50 ans après.
Est-ce que vous faites la même analyse de la guerre, Jean-Paul Chagnolo ?
C'est une affaire complexe, et je crois que dire qu'Israël a été contraint, on peut en discuter longuement. Je crois qu'il y a eu effectivement de la part de Nasser en particulier une volonté de s'imposer au monde arabe dans des conditions qu'il a absolument pas maîtrisées. Je crois qu'une bonne partie de l'établissement militaire israélien à l'époque avait parfaitement conscience du rapport de force, et en particulier par le fait qu'on oublie souvent qu'une bonne partie de l'élite de l'armée égyptienne se trouvait engluée dans une guerre néocoloniale au Yémen. Donc c'est assez compliqué de dire, mais il y a eu un engrenage, et je pense que si je devais résumer, je dirais que c'était une guerre non voulue, en quelque sorte, par opposition, par exemple, à la guerre de 73, qui a été une guerre profondément planifiée à tous égards, y compris en termes de logistique très précise, en 1973. Donc voilà, on pourrait débattre de ça.
Planifiée par les Égyptiens.
Égyptiens et par les Syriens. Enfin, moi, j'étais témoin d'une scène, j'étais étudiant à l'époque, qui était incroyable. C'était des bateaux en 1970 qui franchissaient des voies d'eau. Je m'étais trompé de chemin en Égypte, et je me suis retrouvé en train de voir et je ne pensais pas une seconde que les Égyptiens seraient capables, en 70, un peu plus tard, de franchir un canal. Et c'est pourtant ce qu'ils ont fait. Voilà ce que j'appelle une préparation logistique extrêmement précise, puissante même. On est là dans une guerre non voulue quelque part, qui est très complexe à analyser. Mais pour la suite, c'est vrai que l'occupation va générer très vite des mouvements, et je pense au Gouch Emunim en particulier dès 1968, qui à l'époque est très minoritaire. Et c'est toute la question, qu'est-ce qui s'est passé dans ces années cruciales ?
Oui, mais alors, ce mot de guerre de conquête me fait également un peu sursauter, Jean-Paul Chagnolo. Parce que c'est un peu oublier le contexte de l'époque où on voyait sur une caricature publiée par un journal de Damas des crânes frappés de l'étoile de David dans les ruines fumantes de Tel Aviv, ou sur une autre caricature parue au Liban, Nasser jetant d'un coup de pied au derrière dans les eaux du golfe d'Aqaba un juif au nez crochu censé représenter Israël. Donc il y avait quand même une menace existentielle. Et certains ont tendance à dire que puisqu'Israël a gagné la guerre et l'a gagné très vite, en fait, cette menace n'existait pas, il y a comme une illusion de fatalité, et donc ça voudrait dire que les Israéliens sont lancés dans une sorte d'expansion ininterrompue depuis 1948, et les choses ne se sont pas passées ainsi, vous seriez d'accord pour le dire,
Je n'ai pas parlé de guerre de conquête. J'ai simplement dit que c'était une guerre non voulue, ce qui d'ailleurs pose bien d'autres questions. Et en particulier, je pense qu'il faut, mais c'est très facile à dire des années après, il faut bien voir la part de l'irrationnel dans cette affaire et quand même les quelques segments de rationalité. Quand j'évoquais l'établissement militaire israélien à ce moment-là, nous sommes dans la rationalité militaire. Ils avaient parfaitement étudié les configurations en termes d'équilibre de force et ils savaient très bien que l'armée égyptienne n'était en aucune manière capable d'attaquer, pas simplement parce qu'une bonne partie était au Yémen, mais même l'état-major n'était pas présent. Et puis, il y a toute l'affaire, qu'on ne va pas décrire ici en détail, mais du rapport aux forces des Nations Unies, forces entre guillemets, bien entendu, qui étaient stationnées depuis 1957 sur la frontière égyptienne, près de la frontière israélienne. Et il y a tout un rapport entre UTAN,
c'était UTAN,
Nasser. Et il y a un échange de correspondance que j'avais étudié à l'époque, où on voit bien que Nasser ne voulait pas, dans un premier temps, qu'il se retire complètement, et UTAN dit « c'est tout ou rien ». Alors du coup, Nasser, publiquement, va dire « et c'est le début de cette escalade qui passe aussi par le blocus ».
Non, c'est un engrenage pour vous, en fait.
Pour moi, c'est un engrenage que les Égyptiens, que Nasser, il a tout perdu dans cette affaire, y compris son charisme, d'une certaine manière, même s'il a été récupéré. Donc je ne parle pas du tout de cas de conquête, simplement après 67, des forces se sont mises en place, et on va vers le septième jour dont parlait Leibovitz.
Alors justement, que s'est-il passé? Parce que Elie Barnavi, dans son histoire moderne, d'Israël, qui est d'ailleurs membre de J-Call, Elie Barnavi dit qu'au début, justement, l'occupation était aussi libérale que possible. Et puis, là, il y a eu un engrenage, la colonisation a commencé, mais il ne faut pas oublier non plus la première réaction des pays arabes après la défaite, c'est les trois noms de Khartoum. Non à la paix, non à la reconnaissance, non aux négociations. Est-ce que la colonisation est un effet de ces trois noms? Est-ce que les choses auraient pu se passer autrement, David Chemla?
La colonisation n'a pas démarré tout de suite. Le climat en Israël, j'y étais en juillet 67, puisque j'ai vécu une dizaine d'années en Israël à cette époque-là, où j'ai fait mon service militaire aussi. Le climat dans le pays était qu'on allait rendre ces territoires et qu'ils étaient une monnaie d'échange dans le cas d'un accord. C'était ça le climat. Puis, comme il n'y avait pas de négociation, Khartoum, vous faites allusion donc à ces décisions, de ces trois noms de Khartoum, on a été amené à gérer cette occupation. Et c'est dans ce contexte-là que se sont développés un certain nombre de mouvements qui étaient minoritaires complètement à cette époque-là. Alors, la première initiative a été prise par les enfants orphelins de ceux qui avaient été dans la région du Gush Etzion en 1948. Pour les auditeurs, je raconte l'histoire.
Il faut expliquer ce qui s'est passé.
Avant 1948, donc avant la création de l'État d'Israël, il n'y avait pas donc encore d'État, il y avait des positions où les Juifs habitaient, des positions où les Arabes habitaient. Et il y avait une zone à l'est de Jérusalem qui s'appelle la zone du Gush Etzion, où il y avait quatre kibbutzim, trois religieux et un du Hachomer Tsaïr. Pendant la guerre, ces quatre kibboutim sont tombés. La population de deux d'entre eux a été massacrée par les forces palestiniennes. Et je sais, pour avoir été membre d'un des quatre kibboutim, qui s'appelle Revadim, qui avait été à l'époque au Gush Etzion, mais qui s'est replié ensuite à l'intérieur d'Israël, qu'à Revadim, les choses ne sont pas passées comme ça, puisqu'il n'y a pas eu de massacre. Par contre, les enfants qui avaient été cachés en Israël pendant le conflit de 48, 20 ans après, sont revenus et ont demandé au gouvernement de pouvoir revenir l'endroit où étaient leurs parents. Et dans ce climat où Gush Etzion avait une certaine importance mythologique, compte tenu que c'était un des points qu'Israël n'avait pas pu conserver pendant le conflit de 48, il y a eu donc un premier accord. Puis ensuite, il y a eu un deuxième accord sous la pression d'un groupe de religieux qui a voulu, soi-disant, au printemps 48, fêter les fêtes de Pâques dans une base militaire près de Hebron, l'endroit où se trouve le tombeau des patriarches, lieu hautement symbolique. Et c'est comme ça que cet engrenage s'est fait. Mais de 67 à 77, à l'époque où les travaillistes dirigeaient encore le pays, la colonisation, je crois 10 ans plus tard, il y avait 7 à 8 000 habitants qui étaient s'installés, y compris dans les faubourgs de Jérusalem, en Cisjordanie, Gaza et Golan. Donc c'était quelque chose de maîtrisable, non voulu. Il y avait certes un plan qu'on considérait plus ou moins comme un plan de référence, c'était le plan fait par Yigal Allon à l'époque ministre, qui voulait proposer des colonies le long de la vallée du Jourdain. Mais on n'était pas dans une phase d'occupation complètement, de
colonisation. Alors justement, est-ce qu'on peut... oui, Jean-Paul Chagnol,
oui, juste, allez-y. On a évoqué deux, trois faits. Moi, je pense que c'est très important d'évoquer les séquences du conflit israélo-palestinien. On ne va pas le faire ici en détail, mais entre 1948 et 1967, nous sommes dans un conflit interétatique. Les Palestiniens n'existent pas. Ils sont tout au plus nommés comme réfugiés. D'ailleurs, dans la résolution de novembre 1967, on ne parle que des réfugiés. Même pas, on ne dit pas réfugiés palestiniens. On dit un juste règlement des réfugiés. Bon. Et à partir de 67, ça va être une montée en puissance lente, mais une montée en puissance du nationalisme palestinien qui va vraiment surgir et se cristalliser dans les territoires palestiniens, disons dans les années 75-76. Je prends ces exemples parce que ce sont des élections municipales en 72, gagnées par les notables jordaniens, et en 76, gagnées par les nationalistes de l'OLP. C'est quand même un signe très fort du changement de nature du conflit. Enfin, on revient aux fondamentaux, en quelque sorte. Ça, c'est la première idée. Puis la deuxième idée, je suis tout à fait d'accord avec vous, 67-77, il y a des mouvements de colonisation à Jérusalem aussi, mais il n'y a pas cette ampleur. Il y a une phrase fondamentale qui est prononcée par Menachem Begin au lendemain de l'accession du Likoud au pouvoir, qui est à mon avis le tournant, c'est-à-dire en 1977, et Begin dit « désormais ces territoires sont libérés ». Il utilise cette formule-là, et il encourage la colonisation. Et quand on regarde les plans de colonisation, avec à la fois le nombre de colonies et le nombre de colons, il y a un élan absolument incroyable en quelques années, et c'est le début de la véritable
colonisation. Et alors justement, entre 67 et 77, est-ce que les Arabes, en général, et les Palestiniens en particulier, n'ont pas manqué l'occasion d'établir un compromis, d'aller vers la solution à deux États? Pourquoi, dans cette période où la colonisation était extraordinairement marginale, ne s'est-il rien passé sur le plan diplomatique?
Je répondrai sur deux plans. Le premier, c'est que nous sommes encore dans un conflit interétatique. Nous sommes en 67, je parlais de la guerre de 73. Donc en fait, tout est fondé sur les rapports interétatiques. Et quand on dit rapport interétatique, ça veut dire aussi, bien entendu, que les pays arabes veulent mettre la main et continuent de mettre la main sur la question palestinienne. L'OLP, souvenons-nous, si j'ose dire, a été créé en 1964 par Nasser pour maintenir. Bon, donc on est dans un cadre de conflit interétatique. Quant aux Palestiniens, ils commencent juste à surgir dans cette période-là. Et ils essaient d'affirmer leur identité. Ils ne sont pas en capacité de pouvoir faire le moindre compromis historique dès lors qu'il n'existe pas vraiment encore. Les premiers moments fondamentaux, c'est 1974, à la fois le discours d'Arafat aux Nations Unies, qui esquisse le programme qui sera le sien par la suite, et puis bien entendu le sommet arabe de Rabat, où il est reconnu, où l'OLP est reconnu. Donc on a bien ce balancement. Donc les choses ne vont vraiment se cristalliser, à mon avis, du point de vue palestinien, que lorsqu'il y aura un rapport de force minimal. Et il intervient finalement à partir de la première intifada. Je pense que si on prend encore une autre date, il y a beaucoup de 7 qu'il faut retenir, 67, 77, et la date suivante, à mon avis, c'est 1987.
David Chimnard.
Je crois que le point important dans la chronologie, c'est d'abord les conséquences de la guerre de Kippour et le voyage de Sadat à Jérusalem avec cette reconnaissance. Begin était au pouvoir depuis quelques mois. Et là, c'est un tournant majeur dans la région parce que Sadat, en venant à Jérusalem, il avait proposé à Arafat de venir avec lui. Arafat n'avait refusé. Imaginons ce qui serait passé si Arafat avait été dans l'avion à Tel Aviv.
Juste pour dire que si vous regardez bien l'échange de lettres, car vous savez, pendant les accords de Camp David, tout ce processus, Jimmy Carter reçoit les lettres d'un côté de Sadat et de l'autre de Begin. Oui. Et donc il attend des réponses. Et quand on parlait en termes étatique, le circuit fonctionnait. C'est-à-dire qu'il y avait une réponse et ça a conduit au traité de paix de mars 1979 entre Israël et l'Égypte. Mais quand il s'agissait des Palestiniens ou de Jérusalem, Begin ne répondait pas. Il répondait d'un revers de main. Il était clair dans son esprit qu'il n'était pas question véritablement de négocier là-dessus. Il fallait d'abord, enfin juste encore un mot, faire la paix avec le plus puissant des États arabes et ensuite on voit ce qu'il voulait faire de l'OLP. Si vous prenez la chronologie, dernier soldat israélien à quitter le Sinaï, c'est au cours de l'été 1982, et le premier soldat à rentrer au Liban pour casser l'OLP, c'était en 1982. Donc Begin avait une vraie vision, mais une vision évidemment très nationaliste.
Tout à fait. Mais malgré tout, dans le contexte, parce que quelques semaines avant le voyage de Sadat, si on avait fait un sondage en Israël en demandant êtes-vous aux populations, êtes-vous prêts à quitter le Sinaï, à quitter, parce qu'il y avait aussi des colonies dans le Sinaï. Hein. Il y a des villes. Yamit était une ville qui avait été créée au Sinaï. On aurait une majorité pour refuser tout retrait. Et puis le voyage de Sadat a bouleversé, changé la donne. Et quelques semaines après, après un long processus de négociation, où là, le civil israélien a joué un rôle majeur, et on y reviendra, notamment avec la création de la paix maintenant qui s'est fait dans ces années-là, il y a eu des pressions et des négociations qui ont abouti à un accord et au retrait intégralement de tout le Sinaï et de qu'Israël occupait depuis 67. Et Israël a démantelé des colonies pour la première fois à cette époque-là. C'était aussi un signe important, un message important.
Oui, c'est Sharon qui l'a fait sous les ordres de Begin.
Tout à fait.
Tout de même, une précision très importante, il l'a fait dans le territoire égyptien.
Dans le territoire égyptien, tout à fait.
La distinction entre le territoire égyptien, syrien d'un côté et palestinien de l'autre est fondamentale.
C'est un territoire qui n'a pas la même symbolique et c'est ça le nœud du problème.
C'est toute la grande
question. Parce que la Cisjordanie, c'est le, pour la droite israélienne et pour les religieux, c'est le cœur de la Judée-Samarie.
C'est ça.
Où se trouvent toutes les racines de l'histoire juive.
Même Gaza n'a pas évidemment
la même symbolique. La seule épisode de Gaza dans la Bible, c'est l'histoire de Samson qui a été tué. Vous connaissez la légende de Samson.
Oui, donc c'est à partir de l'arrivée au pouvoir de Begin que la colonisation commence. Il y a toujours plus d'implantations. Et justement, comment l'un et l'autre analysez-vous ce phénomène? Où en est-on arrivé aujourd'hui? Et peut-on encore penser qu'une paix est possible avec deux États? Car une paix à deux États signifie le démantèlement d'un grand nombre d'implantations, avec, semble-t-il, un risque d'affrontement, voire de guerre civile en Israël, même si on ne revient pas aux frontières de 67. Et je dois dire que Pierre Mendès-France, qui s'était beaucoup impliqué pour la paix au Moyen-Orient dans les dernières années de sa vie, disait qu'un tel retour était absolument impossible parce que les taxis faisaient en 10 minutes le trajet d'est en ouest d'Israël. Il disait les frontières de 67 ne sont pas défendables. Donc, mais il y a eu des négociations parallèles, une diplomatie parallèle qui a imaginé justement des échanges de territoires, etc. Mais même pour cela, les choses sont-elles encore possibles ou la colonisation est-elle déjà allée trop loin? Jean-Paul Chagnolot et puis David Schimler.
Je crois que si on prend le problème du point de vue purement matériel, c'est vrai qu'en l'espace d'une quinzaine d'années, je dis 15 ans parce que je me situe là encore une fois après la seconde intifada, la diffusion de la colonisation est considérable partout. Moi je vais très souvent là-bas et je vois à chaque fois, même en quelques mois, de nouvelles colonies, en tout cas des extensions de colonies, et puis le nombre de colons d'aujourd'hui doit être de l'ordre de 600 ou 650 000 en comptant évidemment Jérusalem-Est. Donc de ce point de vue-là, la matérialité nous fait penser que la solution à deux États n'est plus possible. C'est d'ailleurs une des raisons du vote par le Conseil de sécurité le 23 décembre 2016, de la résolution que je crois très importante, la résolution 2334, qui dit en substance arrêtez la colonisation, car sinon on met en péril la solution à deux États.
Et je dois rappeler ici que pour la première fois, les Américains n'ont pas mis leur veto, et John Kerry a expliqué la décision américaine dans une longue conférence de presse, quasi testamentaire et extrêmement émouvante, parce qu'il a dit son attachement à Israël, pays qu'il avait découvert en 1986, son attachement à la sécurité d'Israël. Il a condamné le double langage de l'autorité palestinienne, il n'a pas dû de mots assez durs pour le terrorisme, il n'a dit que la colonisation n'était pas le seul problème, mais que ce problème était extrêmement grave, que les Palestiniens vivaient dans des enclaves séparées, et aucun Israélien, a-t-il dit, ne pourrait supporter cela. C'était un discours extrêmement impressionnant, parce que précisément, il était prononcé par un véritable ami d'Israël.
C'était effectivement une conférence que j'ai trouvée, enfin je l'ai écoutée en direct, qui a duré 1h15, 1h20.
Très longue.
Très longue. Sans notes et avec une analyse extrêmement détaillée, à la fois des soubassements du problème et des solutions possibles. Quoi. C'était vraiment, évidemment, on peut regretter qu'il ne l'ait pas fait un peu plus tôt, car comme vous dites, c'était testamentaire. Mais n'empêche que ça, c'était au lendemain de l'adoption de cette résolution, que je crois très importante parce qu'elle rappelle le droit. Je reviens à ce que j'évoquais, je disais, sur la matérialité, effectivement, ça pose problème. Il y a un deuxième niveau qui me pose aussi problème. Je crois aujourd'hui que nous sommes dans une sorte de conflit presque, comment dire, néocolonial ou crypto-colonial, où la colonisation devient centrale, car c'est pas simplement une dépossession du territoire qui s'opère, c'est aussi plus que ça. Il y a un rapport à l'autre qui est tout à fait préoccupant. On remet en question l'identité même des Palestiniens, qui était complètement reconnue dans les années 90. Je pense qu'on est vraiment dans une période très, très, très lourde. J'ai un ami sociologue à Birzeit, palestinien, dans un colloque il y a quelques mois, on était en Égypte, et il me dit, à l'auditoire, celui qui vous parle, c'était quand même assez fort, est un indigène. Enfin, il a plus ce terme. Et par rapport à tout ça et par rapport à votre question, je termine sur un point. Je crois à la politique, et je pense que même si une matérialité sur le terrain semble empêcher une solution à deux États, s'il y a une volonté politique, la question c'est d'où pourrait-elle venir. Je pense qu'on peut continuer à, et il faut défendre, la solution à deux États.
David Chimlin.
Aujourd'hui, vous avez raison de le rappeler, il y a à peu près 640 000, enfin d'après les dernières statistiques, habitants au-delà de ce qu'on appelle la ligne verte, qui était la ligne d'avant 67, dont 200 000 grosso modo qui vivent dans les quartiers qui ont été construits à Jérusalem-Est, et les autres se répartissant en Cisjordanie. Mais c'est important d'analyser les cartes et de voir où vivent ces populations et de quel type de population dont on parle. Parce que on parle des colons, il y a différents types de colons dont il faut différencier les caractéristiques. Et c'est très important. Alors, premier fait établi, c'est qu'aujourd'hui, on va dire, grosso modo, les colons qui vivent au-delà donc, de la ligne verte représentent 5% de la population israélienne. Par rapport à la population du pays, qui est aujourd'hui de l'ordre de 8 700 000 habitants, les colons représentent 5% de la population israélienne. Deuxième point également important, c'est que 80% de ces colons, grosso modo, vivent dans 4% du territoire palestinien de Cisjordanie et majoritairement le long de la ligne verte. Et il y a certes beaucoup de colonies disséminées dans le territoire palestinien, mais majoritairement dans le territoire palestinien, si je fais abstraction de ces 4% qui sont plus ou moins contigus de la ligne verte, dans le reste du territoire, 80% de la population est palestinienne, même dans certaines régions, dans le nord de Samarie, c'est 95% de la population est palestinienne dans le nord de la Samarie. Par rapport, donc, ce qui montre quoi? Ce qui montre que, certes, la colonisation s'est beaucoup développée depuis, surtout, ces une vingtaine dernières années, mais il y a un échec du point de vue des colons, de leur projet. Ils n'ont pas réussi à peupler la Cisjordanie, où il reste encore une minorité sur le territoire de la Cisjordanie par rapport à la population palestinienne qui est très largement majoritaire, puisqu'ils ne représentent que 18%, grosso modo, des habitants de la Cisjordanie.
Jean-Paul Genio.
Oui, juste une remarque. Vous avez raison, bien sûr, sur tout ce que vous allez dire, avec simplement un rapport au temps qu'il faut introduire. Vous avez aujourd'hui des gens qui sont nés dans les colonies et qui ont des positions dans l'administration, dans l'armée et dans la politique tout à fait clé. Et donc, nous sommes plus du tout dans une colonisation qui est posée sur un territoire qui serait le territoire palestinien. Nous sommes dans une colonisation qui s'est ancrée. Il y a maintenant, on est à la deuxième génération, ceux qui sont nés dans les années 70 ou 80, puisqu'on prenait ça comme point de repère, et ils ont aujourd'hui 35 ou 40 ans, et ils sont, et en particulier, certains hommes politiques importants à l'extrême droite.
Alors maintenant, je voudrais m'interroger sur la société israélienne. Vous avez parlé, David Chimlin, de la création de Shalom Arshav, la paix maintenant, c'est il y a des années. Donc le maintenant, c'est voûté, c'est ridé, c'est fatigué. Le maintenant est un quasi-vieillard. Et évidemment, ça fait énormément de peine. Mais, Jean-Paul Chagnolo, quand vous parlez de droitisation de la société israélienne, laissez-moi en quelques mots vous formuler une petite objection. Harry Shavit, dans un livre absolument extraordinaire, « Ma terre promise, Israël, triomphe et tragédie », c'est un ancien journaliste de Haaretz, dit ceci: « Israël reste la seule nation occidentale qui occupe le territoire d'un autre peuple, mais Israël demeure aussi la seule nation occidentale à être menacée dans son existence même. » Il y a une vulnérabilité, et cette vulnérabilité, elle joue beaucoup. Pourquoi? Les Israéliens se sont retirés du sud Liban. Ils ont eu le Hezbollah. ils se sont retirés de Gaza en démantelant, certes c'est un retrait unilatéral, mais ils ont démantelé des implantations. Ce qui a été extrêmement difficile, c'est Sharon qui l'a fait. Et ils ont maintenant le Hamas et les tirs de roquettes. Et c'est Elie Barnavi qui dit dans un de ses livres, cette chose qui m'arrête très juste, les Palestiniens qui disposaient dorénavant du premier territoire occupé, libéré, entièrement vidé de toute présence israélienne civile ou militaire, auraient pu et dû en faire la vitrine de l'État à venir. Or, ajoute-t-il, les colonies et les serres laissées derrière eux par les colons sont devenues des rampes de lancement des roquettes. Des roquettes qui se dirigent vers le sud d'Israël et qui tombent sur des civils. Donc ça, c'est une terrible occasion manquée. Donc les Israéliens ont tendance à vouloir le statu quo en se disant que si ils se retirent de la Cisjordanie, étant donné d'ailleurs la fragilité même de l'autorité palestinienne, ces ambiguïtés, car on fait des funérailles glorieuses aux martyrs qui tuent des civils jusque à l'intérieur de l'Israël de 67, jusqu'à Tel Aviv. Donc les Israéliens peuvent être fondés à penser qu'ils auront le Hamas à leur porte et des deux côtés. Et c'est, je crois, l'une des raisons fondamentales de la perpétuation du statu quo. Non pas l'ivresse de la puissance, mais un sentiment terrible de vulnérabilité.
Si vous me permettez, à mon tour, Chagnon, une objection.
Oui, bien sûr.
C'est que vous mettez sur le même plan la question de l'occupation militaire et la question de la colonisation. Et je crois qu'il faut les distinguer absolument.
Vous avez raison.
Absolument. On peut, si j'entre un instant dans votre raisonnement, je dis un instant, je dis très bien, à ce moment-là, on maintient une présence militaire jusqu'à ce qu'il y ait eu les conditions de sécurité et de paix qui permettront l'évacuation de nos militaires. Et l'évacuation de militaires, ça se fait en quelques jours.
Je suis d'accord avec vous.
Mais là, ça ne peut pas être le fondement de la justification de la colonisation, qui est tout à fait autre chose. D'autant plus que la colonisation, elle, comme j'ai évoqué brièvement tout à l'heure, elle s'est déployée pas simplement dans sa matérialité qui conduit à la dépossession foncière de beaucoup de terres palestiniennes, mais aussi, ce que j'évoquais, la négation d'identité et au déni de droits des Palestiniens, y compris les droits individuels. Moi, j'ai beaucoup travaillé sur la Cour suprême, la question de la Cour suprême et les droits des Palestiniens et les droits des Israéliens. La Cour suprême a fait un travail remarquable sur les droits des Israéliens, parce qu'il n'y a pas de constitution écrite, donc il y a une construction jurisprudentielle de la protection des droits de l'homme en Israël qui s'appuie simplement sur une loi fondamentale. Et c'est vraiment le travail de la jurisprudence de la Cour suprême qui a fait ça, comme dans d'autres pays. Mais en ce qui concerne les droits des Palestiniens, la Cour suprême ne peut pas intervenir et n'est pas intervenue. Donc on a vraiment un déni de droit. Donc on est vraiment, distinguons bien les deux choses. Alors maintenant, si on revient au point de départ de votre analyse, que le Hamas soit dans cette situation et fait ce qu'il a fait, je suis de votre avis à penser que c'était un contresens historique absolu, bien entendu, et qu'ils sont enfermés dans une problématique quasi totalitaire. Ils prennent leur propre peuple en otage. Je suis un peu sévère en disant ça, mais c'est comme ça que je vois le Hamas. Donc je pense que vraiment c'est... Et ça nous conduit évidemment à la division des Palestiniens aujourd'hui, qui est tragique pour les Palestiniens eux-mêmes. Et voilà. Et ce qui, par ricochet, juste une phrase, par ricochet, eh bien... ça évidemment facilite la politique israélienne qui fait cet amalgame entre occupation et colonisation et qui développe de manière systématique non seulement la colonisation, mais avec ce qu'elle implique à terme, qui est évoqué aujourd'hui de manière très officielle, c'est-à-dire l'annexion unilatérale et tout à fait illégale du point de vue du droit international.
Alors,
effectivement, il faut distinguer occupation et occupation militaire et colonisation. C'est pour cela d'ailleurs que vous trouverez aujourd'hui dans la société israélienne un certain nombre de beaucoup de mouvements et d'ONG qui travaillent sur toutes les problématiques liées à l'occupation, et parmi celles-ci, un mouvement qui s'appelle les commandants pour la sécurité d'Israël, qui regroupe 280 anciens généraux, qui soient de l'armée, du Shin Bet, des services de sécurité intérieure, du Mossad, etc., qui affirment dans toute leur communication, et il y a un site, on peut donc trouver facilement sur Internet, que l'occupation n'est pas une nécessité pour la sécurité d'Israël. Au contraire, c'est le principal des freins aujourd'hui pour la sécurité d'Israël en tant qu'État. Il n'y a pas de menace aujourd'hui. L'occupation existentielle par les pays avoisinants, je ne parle pas des autres pays, mais des pays avoisinants, de menaces sur existentielles sur Israël. Par contre, l'occupation, elle, est une menace quotidienne. Ce matin encore, il y a eu un attentat où 3 soldats ont été tués à une porte d'une colonie pour empêcher un terroriste d'y rentrer. Montre bien que cette occupation quotidienne, pour laquelle il n'y a pas de solution aujourd'hui compte tenu de la situation politique, est la véritable menace pour le quotidien Israël. Et toutes ces ONG partent sur le principe que la solution des deux États est encore possible. Et je développerai, si vous voulez, tout à l'heure.
Bien sûr. Jean-Paul Chagnolot.
Oui, sur la vulnérabilité que vous évoquez tout à l'heure, je souscris complètement à ce que vous venez de dire. Mais si on pense sécurité, et là on revient à l'idée de la force, je crois que la force est bien entendu nécessaire, il ne faut pas faire d'illusions. On ne peut rien obtenir s'il n'y a pas un rapport de force, on le voit bien, et au-delà d'Israël-Palestine, ce qui s'est passé en Syrie, ou ce qui s'est passé ailleurs. Bon, mais en même temps, le point très intéressant, c'est que si vraiment on voulait sortir de cette vulnérabilité, aujourd'hui la configuration politique et géopolitique permettrait à Israël de le faire. Nous avons déjà, depuis plus de 40 ans maintenant, une paix avec les Égyptiens. Quand je dis nous, je parle des Israéliens, avec la Jordanie depuis 1994. Un accord avec le Maroc serait sans aucun problème. Avec la Tunisie, ça poserait pas davantage de problèmes. Avec l'Arabie Saoudite, il y a des contacts aujourd'hui avec l'Arabie. Donc nous avons une initiative de paix que vous aviez évoquée, David Schwemmler, il n'y a pas très longtemps, une initiative de paix 2002, 2007, 2013, qui est là sur la table. Mais si on veut sortir de cette vulnérabilité, et on a un arrière-plan l'Iran, dont on pourra parler peut-être, eh bien il est clair que c'est un accord de paix qui va rendre finalement sa sécurité pleine et entière, avec tout ce que ça implique à Israël. Mais, et c'est ça qui me paraît fondamental.
Mais il y a aussi, dans le monde aujourd'hui, une montée en puissance de l'islam radical, du fondamentalisme islamique, dont on peut penser qu'il a aussi... Certains ont dit qu'il était nourri par le conflit israélo-palestinien. Je ne crois pas vraiment qu'on puisse encore raisonner ainsi. Mais il peut avoir aussi un retentissement sur ce conflit. Il peut conduire à un certain nombre de Palestiniens ou même d'Arabes israéliens à se radicaliser. Et il est déjà présent dans la charte du Hamas, oui, qui en appelle au djihad, qui dit qu'il faut reconquérir toute la terre de Palestine parce que c'est une terre islamique, et qui a un article totalement antisémite aussi au cœur de sa charte. Donc est-ce que, en termes géopolitiques, cette réalité ne doit pas aussi être prise en considération?
Ça ne remettait en aucune façon en question ce que j'évoquais sur la possibilité d'un compromis global qui serait fondé sur l'initiative de paix arabe que Israël, en 2002, a balayé, c'était Sharon à l'époque, d'un revers de main. Quant à l'islamisme, et si on prend le Hamas, pour lequel j'ai exprimé très clairement mes critiques féroces, parce que je vois bien ce que ça donne au quotidien, j'ai des informations très précises sur ce qui se passe à Gaza aujourd'hui, mais en même temps, si vous prenez le Hamas et de manière générale les organisations assez radicales, et si vous les corrélez aux possibilités, aux espoirs de paix, vous voyez bien que lorsque ces espoirs de paix diminuent, radicaux vont monter en puissance. Autrement dit, même avec le Hezbollah, dont on n'a pas encore parlé, moi j'ai eu l'occasion de discuter avec des dirigeants du Hezbollah, j'aurais dit, mais qu'est-ce que vous faites s'il y a une paix israélo-palestinienne? Ils étaient sans voix parce que, voilà, ils perdent leur ennemi en quelque sorte. Et donc, moi ce qui me frappe dans ce conflit, c'est l'incapacité à penser autrement, justement. Essayons d'imaginer ce que serait la région et les rapports israélo-palestiniens si on dépassait tout cela. S'il y avait une paix, on penserait autrement. Et notre pensée est comme alliée est né par la réalité géopolitique aujourd'hui, donc on n'est pas capable de surpasser.
Alors, David Schwemmler. Effectivement, la classe politique, et là je parle probablement des deux côtés, mais plus concernant la classe politique israélienne, je peux constater qu'elle utilise cette situation actuelle où il n'y a pas effectivement de perspective immédiate et entretient un petit peu cette idée qu'il n'y a pas de partenaire, qu'il n'y a pas de solution possible, et donc on maintient un statu quo. Mais ce statu quo est la pire des choses, parce qu'il ne permet pas aux populations de bâtir leur avenir, d'ailleurs sur tous les plans, parce que ça, l'occupation a aussi des conséquences sur la société israélienne énormes, sur le plan social. Enfin, Israël est un pays où il y a 20% de pauvreté, et on pourrait faire des corrélations, on n'a pas le temps de le faire ici, entre le développement du néolibéralisme en Israël ces dernières années, avec une, la politique d'occupation.
Qui coûte extrêmement cher,
évidemment. Et on voit bien où va l'argent. Quand on compare les budgets alloués aux villes de développement qui ont, en Israël, ont besoin de structures, d'infrastructures, etc., et les budgets alloués dans les colonies, on voit bien aussi les écarts. Enfin, on pourrait entrer comme ça dans les... Mais la société civile israélienne, et ça pour moi, c'est ça qui est important, c'est devant cette faillite de la classe politique aujourd'hui, pour ce qui concerne le pouvoir en Israël, à prendre le problème et essayer de donner une solution, la société civile israélienne ne baisse pas les bras, et je crois que c'est vers là qu'il faut regarder.
Alors, elle ne baisse pas les bras aussi parce que vous avez parlé de colonisation l'un et l'autre, mais l'occupation fait peser une menace qui n'est pas simplement sécuritaire sur Israël, une menace existentielle sur le sionisme lui-même. Le sionisme, c'était créer un endroit au monde où les juifs majoritaires puissent librement accomplir leur destin collectif. Or, si l'on s'oriente vers un seul État, un État binational, les juifs se retrouveraient assez vite minoritaires sur cette terre et ne pourraient constituer, et je cite encore Elie Barnavi, qu'un ghetto armé. Il dit, c'est encore un ghetto, et finalement, on assisterait à un processus de libanisation qui engloutirait l'entité sioniste bien plus sûrement que toutes les armées et tous les terroristes arabes réunis. Donc il me semble, David Shemla, que c'est cette inquiétude-là qui anime la société civile israélienne quand celle-ci proteste contre la situation.
La société civile proteste à travers effectivement différentes ONG. Il y a plus de centaines d'ONG qui travaillent sur la problématique de l'occupation, parce que on comprend bien que la seule solution n'est une solution politique. Les Israéliens ne partiront pas, les Palestiniens ne partiront pas. Il faudra bien apprendre à vivre ensemble. Et vous avez raison, Jean-Paul. Il faut penser après-demain et non pas uniquement aujourd'hui. Et souvent, les politiques ne pensent qu'à l'élection qui vient. Et donc, c'est dans cette perspective-là qu'ils ont maintenu, ils maintiennent d'abord un lien avec la population palestinienne. Il y a une coopération sur tous les plans humanitaires, évidemment. Et puis aussi, des actions communes sur le plan politique. Ces jours-ci, ça a commencé le samedi dernier, une marche des mouvements des femmes pour la paix. C'est un mouvement qui existe depuis 2014, de femmes israéliennes et palestiniennes, juives et arabes donc, religieuses et laïques, qui se présentent en tout cas pour Israël et de droite et de gauche, qui veulent simplement, elles ne sont pas au sens lié attaché à un parti politique, qui veulent simplement faire une pression sur leurs dirigeants pour dire trouver une solution. Elles étaient 20 000 l'an dernier à marcher près de Jéricho. Elles ont commencé une marche ce week-end et elles ont l'objectif de marcher comme ça jusqu'au 8-10 octobre. C'est un exemple entre autres de ce que la société civile veut passer comme message. Vous devez, vous les dirigeants, trouver une solution. On ne peut pas constamment continuer ce statu quo.
Jean-Paul Genillo.
Oui, le problème, c'est que, encore une fois, pleinement d'accord avec vous, mais il y a une limite à tout cela. C'est que nous sommes quand même dans un système politique qui, il faut le dire, est très démocratique, puisque les élections se font avec un scrutin proportionnel intégral. C'est-à-dire que c'est l'ensemble du pays qui est une circonscription. Et donc, ce qui est la réalité de la Knesset aujourd'hui dans ses rapports de force, droite, extrême droite, et je parlais effectivement de droitisation du spectre politique israélien, ça correspond, quoi qu'on pense, quoi qu'on dise, à ce que les Israéliens ont décidé. Ils ont voté pour... Donc il y a une contradiction quelque part entre ces mouvements de la société civile et puis la réalité des élections, qui en plus sont des élections répétition, puisqu'il n'y a pas beaucoup de législatures qui vont à leur terme. Donc ça, c'est une première remarque. Ma deuxième remarque, c'est sur le statu quo. Je crois qu'il faut faire attention aux mots, parce qu'ils nous piègent. Nous ne sommes pas dans un statu quo.
Non.
La situation, chaque jour, s'aggrave, parce que la colonisation produit beaucoup de choses, et en particulier produit des humiliations multiples, et on ne guérit pas comme cela, des humiliations, elles s'accumulent. Et ensuite, on voit surgir des violences, mais il ne faut pas s'étonner qu'elles surgissent. Donc, il n'y a pas de statu quo, il y a une situation qui est en train de s'aggraver tous les jours.
Qui se dégrade tous les jours. Mais n'y a-t-il pas aussi un autre obstacle dont nous n'avons pas encore parlé à une paix de compromis, à la solution de deux États, c'est l'invocation rituelle chez les leaders palestiniens du droit au retour des réfugiés, non seulement dans la Palestine qui deviendra un État, mais même en Israël. Parce que, en plus, ces réfugiés sont maintenus dans un statut précaires, avec les innombrables interdictions professionnelles qui les frappent, au Liban en particulier. Et puis, leur nombre ne cesse d'augmenter, puisque sous l'égide de l'UNRWA, on est réfugiés de manière dynastique, en quelque sorte. Ils sont aujourd'hui 4 millions. Or, vous citez Jean-Paul Chagnolot dans votre livre « Amos Oz », qui est au cœur, si vous voulez, de la résistance israélienne à ce qui se passe, qui a dit que de Netanyahou, que c'était le responsable politique le plus antisioniste de l'histoire d'Israël, mais il dit bien que le droit au retour de centaines de milliers de Palestiniens à l'intérieur des frontières d'Israël ferait du peuple juif une minorité ethnique à la merci des Arabes. La reconnaissance du droit au retour équivaut à l'annihilation d'Israël. C'est Amos Oz qui le dit. Est-ce qu'il faut en finir une fois pour toutes avec cette revendication? On peut pas permettre aux Palestiniens d'être chez eux à la fois en Israël et dans la Palestine qu'ils auraient libérée.
Franchement, je crois que c'est une question,
Jean-Paul Chagnolot.
Je ne dis pas qu'elle est réglée, mais il y a eu de multiples rapports, discussions sur ces sujets, notamment durant la période d'Oslo dans les années 90. Et quand on discute de ça avec des dirigeants palestiniens, ce que j'ai eu l'occasion de faire, pas simplement, enfin en privé ils vous le disent, mais après ce sont des positions publiques, il est bien clair que, au mieux ou au pire, selon les positions des uns ou des autres, ils vont demander la reconnaissance du principe du retour, mais il n'est pas question pour eux d'imaginer qu'on puisse envisager un retour au sens de la résolution 194. Et j'ajoute, si on prend la résolution 194 des Nations Unies, j'aime bien le droit international, qui date de décembre 1948, la résolution déjà contenait des solutions, ou bien le retour chez eux, ou bien une indemnisation. Or, depuis les années 90, il y a eu de multiples discussions entre Israéliens et Palestiniens, et ils sont à peu près d'accord sur l'idée qu'il devrait y avoir un retour d'un certain nombre de Palestiniens dans l'État d'Israël d'aujourd'hui, peut-être 50 000, 100 000, c'est des chiffres comme ça qui ont été évoqués à tel ou tel moment, mais les dirigeants palestiniens et les Palestiniens eux-mêmes directement concernés en ont parfaitement conscience. Je crois qu'il ne faut pas se tromper de débat. Et par contre, revenir dans l'État de Palestine pour une partie d'entre eux. Et puis au-delà de ça, il y a quelque chose de fondamental, c'est que ces réfugiés, c'est pas simplement dynastique, simplement ce sont les fils de réfugiés qui ou les enfants de réfugiés qui sont dans une situation de précarité absolue. Ils auraient enfin une nationalité, un drapeau, un État.
Est-ce que cette situation de précarité n'est pas aussi de la responsabilité des États arabes?
Non seulement c'est de la responsabilité aussi des États arabes, mais pas seulement, quand même, parce que prenons un point de droit très précis. Lorsque Israël, dans les années après l'indépendance, dans les années 50, souhaite entrer aux Nations Unies, elle accepte toutes les résolutions des Nations Unies, donc y compris la résolution 194 qui impliquait le retour des réfugiés. À l'époque, ils étaient 750 000, ce qui déjà posait des problèmes démographiques, mais tout de même. Donc voilà.
Oui, mais quand même, presque tous les Juifs ont été expulsés des États arabes et ne se sont pas devenus des réfugiés, quel que soit l'endroit où ils sont allés, ils se sont intégrés.
Ils ont eu un État, quelque part. Oui. Voilà, c'est quand même assez fondamental. Il y a un mot, j'ai lu plusieurs fois le livre éponyme de Théodore Herzl. Il y a un mot très important dans l'État des Juifs de Théodore Herzl qui fonde sa démarche. Et ce mot, c'est détresse. Il dit, voilà, il y a la détresse des Juifs. Eh bien, aujourd'hui, il faut prendre en compte la détresse des autres. Et je pense que c'est tout à fait fondamental si on veut avancer vers un vrai compromis historique.
David Chemlin.
Dans votre livre, Jean-Paul, vous parlez, pour expliquer le repli des Israéliens sur eux-mêmes, des trois polarités que vous identifiez, je reviens dessus, les mythes fondateurs, l'importance des mythes fondateurs, l'inversion du statut, c'est-à-dire se vivre et se présenter toujours comme une victime, et enfin, occulter complètement l'autre, vous avez évoqué ça à l'égard des Palestiniens. Je pense qu'on pourrait utiliser exactement cette même analyse si on analysait le point de vue des Palestiniens, parce qu'il y a également le poids des mythes fondateurs et le poids de la Nakba et du retour des réfugiés, évidemment, est fondamental dans l'identité palestinienne. S'enfermer dans le rôle de victime, certes, ils l'ont été, mais ils n'ont pas été que victimes aussi depuis 60 ans. Les massacres interpalestiniens ont eu lieu et les pays arabes ont tué certainement plus de Palestiniens que des Israéliens. Donc, il y a une analyser aussi ce qui s'est passé. Et enfin, incapacité des dirigeants, comme pour les Israéliens, à occulter l'autre, à voir l'Israélien, à savoir accepter son droit en tant qu'État. Je veux dire, toutes les négociations qui ont eu lieu partaient du principe, bon, ils sont là, on va vivre. Et je crois que les mythes sont importants, vous savez bien, dans la construction nationale. nationale des États. Mais justement, l'approche que nous avons lancée, nous, avec J-Call, est une approche justement basée sur la raison. C'est-à-dire, si on met en avant uniquement les émotions, on ne trouve pas de solution parce que chacun justifie son droit et va au bout de son droit. Or, la seule solution étant une solution de compromis basée sur la raison qui permettrait à chacun de conserver l'essentiel de ses droits, mais de préserver la place de l'autre. Et je crois que c'est cette démarche-là commune qui manque aujourd'hui dans les démarches souvent que nous pouvons faire ici en Europe pour pouvoir essayer de soutenir ceux qui sur place essaient de trouver cette solution.
On pourrait longuement débattre de chacun des trois polarités évoquées, mais en ce qui concerne les dirigeants, nous sommes quand même dans une situation qui est quelque peu asymétrique, ça ne vous a pas échappé.
Non, mais...
et dans ce rapport asymétrique entre les uns et les autres, il y a tout de même chez les Israéliens aujourd'hui, et ce n'était pas le cas dans les années 90, une dominante qui est quand même de droite, d'extrême droite, une très grande violence. On ne parle pas de négocier avec l'autre. Là, nous ne sommes plus en 1992, on n'est plus avec Yitzhak Rabin aujourd'hui. On est avec Nathalie Bennett qui entend annexer. Donc on est dans une logique tout à fait différente. Et alors que les Palestiniens, je crois, sont vraiment prêts, surtout avec Mahmoud Abbas. Qu'est-ce qu'on aura après Mahmoud Abbas? J'en sais rien. Mahmoud Abbas, ça fait combien d'années
Et oui, quand on dit qu'est-ce qu'on n'aura pas après Mahmoud Abbas, l'inquiétude des Israéliens, c'est que Mahmoud Abbas est vieux et que par conséquent, ils ont très peur, en effet, d'une radicalisation de l'autorité.
Ah, ils sont là qu'ils fassent la paix avec Mahmoud Abbas.
Oui, mais même après la paix. Et puis, il y a un autre problème. C'est vrai que la situation est asymétrique, mais lors des négociations de Camp David entre Arafat et Ehud Barak, eh bien, Saeb Erekat, l'un des interlocuteurs palestiniens, expliquait à Shlomo Ben Ami que le temple de Jérusalem n'avait jamais existé. De même, on a vu une résolution de l'UNESCO qui a annulé toute réalité de la présence juive à Jérusalem. Ce type d'initiative, ce type d'offensive, je le trouve extraordinairement mensonger et forcément contre-productif puisque il alimente l'inquiétude israélienne.
Je crois franchement que on pourrait longuement discuter du texte de l'UNESCO qui n'est pas tout à fait ce que vous dites, c'est beaucoup plus précis que ça. Mais enfin, il est clair qu'il y a de la part des dirigeants israéliens aussi une forme d'instrumentalisation. On va chercher l'argument tel que vous l'évoquez pour effectivement ensuite refuser toute forme de dialogue avec les Palestiniens. Le dernier dialogue avec les Palestiniens, c'est Oud Olmert qui l'a vraiment tenté. Et puis, comme il n'avait pas guère de légitimité politique, il a été balayé malheureusement. Mais il faut quand même bien voir qu'aujourd'hui, chez les dirigeants palestiniens, il y a une vraie volonté, au-delà des termes que vous avez évoqués, une vraie volonté de sortir de leur détresse. Et par conséquent, de faire un accord de paix dans lequel le Hamas sera bien obligé de suivre dans la position qu'il a aujourd'hui. Mais ce n'est pas du tout la volonté politique du gouvernement israélien d'aujourd'hui.
Un dernier mot, David Shebla.
Oui, je suis tout à fait, partage cette conclusion. En tout cas, aujourd'hui, au pouvoir en Israël, il n'y a pas d'initiative prise. Il n'y a pas de volonté, en tout cas, de prendre une initiative politique. Moi, je crois qu'il est important de rappeler, un, que la solution des deux États est encore possible malgré les 50 ans d'occupation. Sur le terrain, il y a des solutions possibles en faisant des échanges de territoires. Principe accepté par les deux camps. Deux, que des deux côtés, il y a encore une majorité des populations qui souhaitent une solution de partage, ce qui ne sera peut-être pas le cas plus tard, parce que de plus en plus de gens des deux côtés commencent à imaginer un seul État, qui serait d'après moi un État catastrophique, parce que ça serait soit un État apartheid, qui va à l'encontre des principes même du sionisme et de la création de cet État, et d'autre part, un État...
Soit un État binational.
Ou un État binational, où chacun n'aura pas sa place, alors que les deux peuples veulent leur identité, donc c'est la seule solution, elle est encore possible, mais il devient de plus en plus urgent pour le faire.
Il faut fraterniser les impossibles.
Voilà, merci pour cette conclusion. Je rappelle, Jean-Paul Chagnolot, le titre de votre livre, Israël-Palestine, la défaite du vainqueur. Il est publié aux éditions Actes Sud. Cette émission a été enregistrée le mardi 26 septembre. La semaine prochaine, l'émission aura pour titre Bourgeoisie française. Mes invités seront Sophie Chauveau et Alice Fernet. C'était Réplique, une émission d'Alain Finkielkraut, avec la collaboration d'Anne-Catherine Hochard et Didier Lagarde. À la technique aujourd'hui, Pascal Bénard. Dans un instant, Concordance des temps de Jean-Noël Jeannonet.